Et la cloche qui retentit, ils sont là, nos experts USA Today, pour vivre en direct cette ouverture US. John Plassard, bonjour John, depuis au bureau.
Bonjour Guillaume.
Puis Aude Kersulec aussi, qui nous accompagne tout au long de cette journée, cet après-midi aussi. Aude, depuis la Tour Euronext. Bonjour Aude, ravi aussi de vous retrouver.
Bonjour.
Comment se passe ce début de séance aux États-Unis, Aude?
Eh ben, on a ouvert dans le vert, de la même tendance hein, que vendredi soir en clôture. On rebondit assez bien encore ce matin. Le S&P 500 qui prend 0,4%, 5151 points. Le Dow Jones plus 0,5% également, 38871 points. Le Nasdaq plus 0,3%, 16123 points. Pour rappel, hein, en variation hebdomadaire, on était monté la semaine dernière à Wall Street, contrairement à Paris, à l'Europe, hein, qui avait fait un petit peu moins bien. Post-réserve fédérale et surtout post-marché, post-chiffre de l'emploi vendredi, ça nous avait bien libéré. Et puis on avait eu aussi une belle décrue hein, des taux obligataires et le taux 10 ans américain qui reste campé sur les 4,5% ce lundi. Donc 4,5% pour le 10 ans américain et un œil tiens sur l'euro dollar qui vaut ce matin 1,0780. Voilà donc les marchés, les trois indices américains sont dans le vert.
Quels seront, John, les moments phares de cette semaine tant sur le front macroéconomique que du côté des entreprises?
Bah écoutez, peu de choses cette semaine. Une semaine assez légère, mais vous savez, ce qu'on va surtout surveiller, eh bien, c'est les messages des membres, alors pas de Jérôme Powell, puisqu'il a parlé la semaine passée, mais de plusieurs membres de la Réserve fédérale américaine. Et on rappelle une chose, c'est que vendredi dernier, avant les chiffres de l'emploi américain, bah, on a eu un deuxième membre de la Fed qui a dit que si l'inflation continuait à rester sur ces niveaux ou à progresser, eh bien, il se verrait demander de monter les taux. Vous savez, on en parle, le take-off. Évidemment, ce n'est pas le scénario principal maintenant, mais c'est le deuxième membre de la Fed qui le dit. Alors, qu'est-ce qu'on surveillera aussi cette semaine? Eh bien, on a la lecture préliminaire du sentiment du consommateur selon l'Université du Michigan. Elle devrait être attendue en baisse et ce serait le deuxième mois consécutif. Hein. On sait que le consommateur américain continuait à consommer, donc il était assez optimiste. Mais là, on pourrait voir une légère décrue. Sinon, on aura le budget américain, les détails sur le budget américain, les nouvelles demandes d'allocation au chômage et évidemment la fin de la publication des résultats des entreprises. Mais vous savez, Guillaume, il n'y a qu'une entreprise que tout le monde surveille et que tout le monde attend, c'est bien sûr Nvidia. Nvidia dans l'intelligence artificielle qui publiera, elle, le 22 mai.
Effectivement. Alors, Aude, on va parler, bien évidemment, des entreprises qui marquent ce début de semaine, mais d'abord peut-être la question des sondages, l'état de l'opinion publique américaine.
Oui, c'est ça, John. Vous allez nous dévoiler les résultats d'un sondage. Par quoi sont préoccupés les Américains? Alors, est-ce que ce sont des sujets économiques? Alors, qu'il y a des sujets sociaux, on sait, hein, qui divisent les Américains, les deux camps, républicains, démocrates, notamment l'avortement. Mais est-ce que c'est des sujets géopolitiques? Et là, il y a de quoi faire.
Bah écoutez, c'est une très bonne question, Aude, parce que c'est une société très renommée qui s'appelle Gallup qui demande une fois par année aux Américains de citer le principal problème auquel leur famille est confrontée. Eh bien évidemment, la première réponse, c'est l'inflation. Cette année, 41% des Américains citent ce problème qui est en augmentation. On en était à 35% l'année passée et 32% en 2022. Et tenez-vous bien, c'est un record. Si on revient avant 2022, eh bien en 2008, juste avant la crise financière, il y avait seulement 18% contre, comme j'ai dit, 41%. Après, les autres problèmes auxquels sont confrontés les Américains et qui les stressent, bah évidemment, c'est le surendettement. On sait que de plus en plus d'Américains ont des dettes avec des taux élevés. On a aussi le coût pour les soins de santé, le manque d'argent et les bas salaires. Et puis, le dernier, c'est les coûts de l'énergie ou les prix de l'essence. Donc, on voit que dans les réponses qui sont données par les Américains, eh bien, l'inflation et l'inflation en global est vraiment la préoccupation majeure. Et donc, évidemment, le travail de la Réserve fédérale américaine va être de plus en plus compliqué parce que si on baisse les taux, on peut potentiellement craindre que l'inflation reparte à la hausse.
Effectivement, et c'est parce que la question de l'inflation est au cœur de l'attention des Américains que, vous savez, que les démocrates, le pouvoir en place, Joe Biden aux États-Unis, n'apprécient pas un certain nombre de frappes ukrainiennes sur, vous savez, des infrastructures pétrolières en Russie. Parce que, ben voilà, les frappes ukrainiennes ces dernières semaines contre des infrastructures pétrolières sur le territoire russe, ben, du coup, raréfie l'offre russe et ça fait encore un peu plus monter les cours du pétrole. Et donc, avec les cours du pétrole, aussi le prix du gallon d'essence. C'est pour ça que c'est aussi un thème au cœur de la campagne électorale. Alors justement, on est à maintenant 183 jours de cette présidentielle. Notre point quotidien sur la campagne, grâce à vous, John, USA Today. Et on va parler de Donald Trump. Donald Trump pense qu'il peut immédiatement arrêter la guerre en Ukraine. En tout cas, s'il est élu président. Il a un plan, manifestement.
Exactement, vous savez qu'on est en pleine promesse de campagne et l'équipe de Donald Trump a dit qu'il y avait un plan extrêmement détaillé entre l'Ukraine et la Russie qui avait été élaboré, mais qu'il ne serait divulgué qu'après son élection, bien évidemment, afin de maintenir l'influence. Alors, qu'est-ce que ce serait, ce fameux plan? Alors, on a très peu de détails, on a des rumeurs, mais selon le Washington Post, eh bien, il affirme que le plan clé de Donald Trump serait de faire pression sur l'Ukraine pour qu'il abandonne définitivement la Crimée et une partie de Donbass aux Russes en échange de la fin de l'occupation et de l'invasion russe. Donc vous voyez ici que, bien évidemment, ça fait les choux gras des journaux américains ce matin, mais on n'est pas sûr que le peuple ukrainien et surtout Vladimir Zelensky soient d'accord avec ce plan. Mais apparemment, si Trump était élu, ce serait la première chose qu'il ferait immédiatement après être rentré dans la Maison-Blanche une nouvelle fois.
Oui, le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui a aussi été, bien sûr, et qui est au menu des discussions aujourd'hui à Paris, en l'occurrence, entre les présidents français et chinois, puisque Xi Jinping est à Paris en ce moment. Il est à l'hôtel des Invalides, d'ailleurs, avec le président de la République. Tout le centre de Paris est fermé, d'ailleurs, pour la circulation. D'ailleurs, si certains de nos prochains invités de l'émission nous écoutent là en direct, prenez vos précautions pour essayer d'arriver à l'heure pour la suite de l'émission, parce que le centre de Paris est manifestement paralysé. Allez, du côté de Wall Street, on le disait, c'est l'ouverture et on n'est pas du tout paralysé. On est en hausse sur les indices américains. Du côté des sociétés, Berkshire Hathaway a annoncé ses résultats puis sa stratégie aussi haute. C'est une valeur, en tout cas, un groupe qu'il faut suivre et dont tout le monde parle aux États-Unis aujourd'hui.
Bah oui, forcément, c'est celui de Warren Buffett. Warren Buffett qui a donc pris la parole ce week-end lors de l'Assemblée générale de Berkshire Hathaway, qui a d'ailleurs rappelé qu'il n'était pas sûr d'être là l'année prochaine par rapport à la mort de son acolyte. Il y a quelques mois, Charlie Munger, c'était en novembre. Bon, et puis, il nous a aussi donné, encore une fois, des leçons d'investissement. Alors, Warren Buffett qui a dévoilé se désinvestir un peu d'Apple, John, et ne pas réinvestir d'ailleurs son cash qui est à un niveau record, hein, quasiment 190 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'il faut en penser?
Bah écoutez, d'abord, les résultats de l'entreprise, des bénéfices trimestriels en record, une augmentation significative des revenus provenant de la souscription d'assurance. Le bénéfice d'exploitation au premier trimestre, tenez-vous bien, Aude, a augmenté de 39% pour atteindre 11,22 milliards. Et vous l'avez dit, bien évidemment, tout le monde en parle de cette liquidité, de cet amoncellement. Vous avez dit 199 milliards de dollars. Et Warren Buffett a dit que la société pourrait atteindre les fameux 200 milliards de dollars en fin d'année. Juste pour donner un exemple, aujourd'hui, en cash, eh bien, Warren Buffett et Berkshire Hathaway pourraient racheter Disney ou même McDonald's immédiatement. Évidemment, ils ne sont pas à vendre, mais on imagine que ces montants sont faramineux. Vous l'avez dit, on a aussi appris que Berkshire Hathaway s'était délesté de quelques actions Apple. 13% de ses actions dans Apple, c'était sa plus grande position. 2% dans Chevron. Et puis aussi, il a confirmé que sa participation dans Paramount Global était à zéro, qu'ils avaient absolument tout vendu. Alors, évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est de savoir ce que l'entreprise va faire de ces 190 milliards de dollars. Eh bien, aujourd'hui, potentiellement, un petit mouvement au Canada ou au Japon, mais Warren Buffett a dit qu'il ne trouvait toujours pas d'acquisition selon ses critères. Je vous rappelle, entre autres, ses critères qui sont d'acheter des entreprises de qualité à bas prix. C'est un peu difficile, bien évidemment, dans la situation actuelle.
Effectivement, et donc des montagnes de liquidités. Les liquidités accumulées par Berkshire Hathaway, vous nous le disiez, John, atteignent désormais des records. Vous nous disiez, le groupe pourrait, s'il le souhaitait, racheter à lui seul en cash tout McDonald's ou encore tout Disney. D'autant donc que Berkshire Hathaway a allégé sa position en Apple, l'a allégé même assez nettement. Le titre Apple réagit. Alors, petite baisse, rien de méchant, mais enfin Wall Street progresse, pas Apple. Apple perd 0,5% en ce moment, John.
Oui, tout à fait. Alors, il faut rappeler une chose, c'est que Berkshire Hathaway a vendu, on l'a dit, 13% de sa participation dans le groupe. C'est quand même 115 millions d'actions Apple. Il faut rappeler aussi que en moyenne, tous les titres qu'il a achetés, qu'il a cumulés, eh bien, la moyenne est de près de 89 dollars contre 100, un peu plus de 180 dollars aujourd'hui l'action. Donc on voit que le gain est assez substantiel et qu'il prend quelques positions malgré le fait que, évidemment, il considère la société Apple comme vraiment le joyau. Bon, vous me direz, il a 50% de son portefeuille dans Apple, près de 50%, mais le joyau des entreprises américaines.
John Plassard avec nous depuis les bureaux de Mirabeau USA Today chaque après-midi. Merci beaucoup, John. Ce coup d'œil à l'ouverture des marchés américains. Aude nous accompagne également, Aude Kersulec depuis la tour Euronext. À tout à l'heure, Aude, et vous nous appelez bien sûr, vous cassez l'antenne quand vous le souhaitez. Priorité à la séance et aux variations du CAC, des marchés.